Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Nouvelle mobilité, le plan vélo présenté au conseil de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Suivi de la plantation d'une micro-forêt par les enfants du Point Enfant Loisirs Galilée à Mâcon. Et en conclusion, les artistes du collectif Grobiland vous invitent à la Maison de la Saône. Une exposition qui attise le mystère. Boîte noire.
Calade, le journal.
Des rafales, des tirs et des explosions. De la stupéfaction à la peur pour les habitants de l'Ukraine. Tout s'est effondré. Les incessants bombardements, le flegme et la résilience dont ont fait preuve les habitants ces dernières semaines face à la menace russe se sont heurtés à une réalité. L'étau russe se resserre. Le réveil est chagrin, car le risque d'être pris à revers et soumis à un siège est devenu évident pour tout le monde. Le monde, justement. Les Occidentaux affichent leur unité face à la menace russe, mais ils ne prendront pas les armes. Alors qu'ils s'alarment d'une montée des tensions, nous disait David Tertry pour Le Monde diplomatique, les Européens sont les grands absents des négociations ouvertes entre Moscou et Washington. En s'alignant sur les États-Unis, Paris et Berlin ont poussé la Russie à traiter directement avec ces derniers. Et laisser le vieux continent, accuse-t-il, redevenir un terrain d'affrontement entre les deux puissances. Les sanctions pleuvent dans le camp occidental pour tenter de faire reculer Moscou. L'histoire des relations internationales en regorge. Quand on pense par exemple au blocus continental imposé par Napoléon à l'Angleterre en 1806, ou à celui décrété par le président Abraham Lincoln contre les États-Unis sudistes durant la guerre de sécession, par Hélène Richard et Anne-Cécile Robert du Monde Diplo. Et la campagne présidentielle française, rattrapée par la guerre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie rappelle de façon abrupte, mais certaine, les priorités de l'époque. Ainsi que le décalage des thématiques. Immigration et repli identitaire avancés par certains candidats posent question. Nouvelle mobilité, le plan vélo, une priorité du plan mandat de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, l'un des premiers leviers d'engagement de l'aglo sur les nouveaux modes de déplacement sur le territoire, commun aux 18 communes. C'est Alexandre Portier, vice-président de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, en charge des transports et de la voirie, le coordinateur du groupe de travail qui réunissait de nombreux partenaires, élus, associatifs ou encore professionnels de cycle, rapporteur du plan vélo, cette soirée du 24 février du Conseil communautaire. On l'écoute.
Alors l'agglomération a d'abord une forte volonté en matière de mobilité, de transport, de déplacement. Et au cœur de ces politiques-là, le président a voulu qu'on place le vélo et qu'on ait un projet ambitieux, un projet global, un projet pragmatique pour développer l'usage du vélo et des modes doux sur notre territoire. Et donc tout un groupe d'élus a travaillé pendant l'année 2021 pour développer un plan vélo avec des actions très concrètes, 14 en l'occurrence, qu'on va donc adopter ce soir.
Le plan vélo et mobilités actives, de nouvelles mesures de soutien pour conforter une pratique en hausse de l'État.
Alors aujourd'hui, les astres sont alignés puisqu'on a à la fois un certain nombre de collectivités, d'acteurs publics qui aident, l'État à travers l'ADEME, la région, d'autres collectivités qui sont sensibles à ça. Il y a une volonté des élus, du président, une sensibilité aussi de tout un groupe d'élus au sein de l'agglomération qui veulent qu'on accélère sur ce sujet-là. Il y a une attente des publics, des habitants. Donc tout est réuni pour qu'on ait un plan vélo qui soit ambitieux et très concret.
Différents axes d'action pour l'agglomération.
Alors, on a construit notre stratégie vélo autour de 5 grands axes. Le premier, c'est la structuration du maillage vélo. La deuxième, c'est tout ce qui est acquisition et entretien du vélo. En troisième, les nouveaux services, location de vélo par exemple. Quatrièmement, tout le stationnement et notamment la sécurisation des stationnements. Et cinquièmement, l'axe promotion, communication, pédagogie. On a voulu un plan qui soit global, qui laisse le moins de trous possible dans la raquette et qui corresponde bien aux attentes des habitants au quotidien.
Les premières mesures mises en forme.
Alors très concret, ce que les gens vont voir très vite, c'est ce qu'on va délibérer ce soir, l'aide à l'acquisition pour un vélo. L'agglomération va aider les gens à acheter un vélo, en particulier les actifs. On a voulu donner une priorité aux actifs, à ceux qui vont travailler pour les aider à aller travailler à vélo. Donc on va aider les actifs, les étudiants, mais aussi les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent acheter un vélo neuf ou d'occasion, classique ou à assistance électrique. On voulait vraiment pouvoir aider tous ceux qui, demain, pourraient remplacer leur trajet vers le travail à vélo pour qu'ils abandonnent la voiture et qu'ils passent un peu plus sur le vélo.
Alors que seulement 3% des déplacements quotidiens se font à vélo, en France, 9% sur l'agglomération. Le plan vélo s'adresse-t-il aux entreprises dans le domicile travail ?
Alors, on va travailler effectivement avec les entreprises. Nous, on a vraiment focalisé notre plan sur les compétences de l'agglomération, notamment la compétence développement économique. Il ne faut pas faire croire aux gens que tous les déplacements, ils pourront les faire sur notre territoire à vélo. Ceux qui habitent Saint-Cyr-le-Château ne vont pas venir tous les jours à Villefranche à vélo, ce n'est pas vrai. Vous êtes jeune papa, jeune maman, vous n'allez pas prendre votre vélo pour aller à la crèche, aller à l'école, emmener le grand sport, aller faire vos courses à l'oblo. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on a besoin de notre voiture dans le territoire. Mais par contre, pour une catégorie de déplacement bien précis, il peut y avoir une conversion. On peut laisser sa voiture au garage et prendre le vélo. Et là où il y a un vrai effort à mener, c'est sur tous les déplacements domicile-travail, domicile-études, les trajets de courte distance, tout ce qui est autour de 5 km, sur des trajets réguliers, répétitifs, qu'on fait par exemple du lundi au vendredi, un aller le matin, un retour le soir, et où là, des pistes sécurisées plus des vélos à assistance électrique, ça peut permettre vraiment de changer la donne.
Alors, une des questions et des demandes, dans tous les cas, c'est de la sûreté des pistes cyclables.
C'est vraiment l'un des grands axes forts de notre plan. On lance un nouveau schéma directeur 2022-2032 pour développer plus fortement les pistes cyclables et surtout sécuriser. Sécuriser avec des pistes délimitées, des pistes continues. Il y a beaucoup de trous aujourd'hui dans la raquette. Il y a des fois des pistes qui vont un peu nulle part, qui reprennent 500 mètres après. Là, pour la première fois, on aura un plan vélo d'ensemble à l'échelle de l'agglomération. Avant, il était juste pour 4 communes. Maintenant, on va passer à 18. Et ça nous permettra d'avoir cette vue globale qui permettra aux usagers du quotidien, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir naviguer en sécurité.
Des pistes cyclables en cohérence avec les besoins de la commune de l'agglomération.
On a fait un diagnostic pour justement savoir où on pouvait aller. L'idée n'est pas de mettre des pistes cyclables dans chaque chemin de l'agglomération, ça n'aurait pas de sens, ça ne correspondrait pas à une utilité au quotidien, ce serait du gaspillage. Par contre, développer des pistes là où il y a des trajets très importants de population tous les jours pour aller au travail, ça nous semble essentiel. Donc on va définir un certain nombre d'axes d'intérêt communautaire, axes qui pourront être financés par l'agglomération, pour y développer des solutions de déplacement, des pistes qui soient sécurisées pour les gens au quotidien. Et là-dessus, l'idée, c'est d'avoir des espèces de petites autoroutes vélo, en quelque sorte, que les gens puissent facilement utiliser au quotidien, sur lesquelles ils soient en toute sécurité. On a un territoire qui est très varié, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même 2/3 de la population qui vivent dans notre agglomération, sur une partie du territoire qui est celle du Val-de-Saône, qui est assez peu élevée, et la topographie permet tout à fait de se déplacer au quotidien à vélo.
C'était Alexandre Porti, vice-président de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, en charge des transports et de la voirie, rapporteur du plan vélo de cette soirée du Conseil communautaire du 24 février dernier. Plantation d'une micro-forêt pour les enfants de Point Enfants Loisirs Galilée à Mâcon, sur le quartier des Gautrias. Une opération à l'initiative du Rotary Club, en collaboration avec la ville de Mâcon. Pour nous en parler, Nathalie Joncalves, adjointe à l'environnement pour la ville de Mâcon.
Peut-être expliquer déjà la microforêt, en quoi ça consiste. Donc c'est de créer une forêt. Comparée aux forêts traditionnelles, donc elle possède beaucoup plus d'avantages. Les arbres sont plantés de manière beaucoup plus dense. C'est ce qui permet que les arbres y grandissent beaucoup plus vite. Ça permet de posséder une biodiversité d'essence locale qui est beaucoup plus importante. Et là, en l'occurrence, donc, nous sommes procurés vers un fournisseur local. Voilà. Et donc, nous avons choisi 5 essences d'arbres et d'arbustes différents.
Où plantez-vous ?
Alors, du coup, nous avons choisi d'occuper une parcelle qui se trouve chemin de la déserte. Du coup, la localisation se situe plutôt sur un terrain qui était alors justement inexploité, plutôt en friche, et qui se situe entre les quartiers donc des Saugerais et de Marbé. L'objectif d'une micro-forêt, c'est vraiment de faire un poumon vert aux abords des habitations. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'elle sera autonome, c'est vraiment un poumon vert. Donc en fait, il n'y a pas d'accessibilité à l'intérieur. Donc on se balade au pourtour, mais pas à l'intérieur.
Donc dans le choix des espèces que vous m'avez dites tout à l'heure, ce sont des espèces effectivement que l'on trouve, enfin, qui sont adaptées à notre climat, bien évidemment.
Exactement. Hein, une des grandes politiques environnementales donc, de la ville, c'est cette gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on choisit les essences, bien entendu, en fonction du climat et des espèces locales.
Alors, les enfants, bien évidemment, j'imagine, des centres de loisirs, des écoles sont invités ?
Alors là, du coup, donc, c'est une collaboration du coup, de la ville avec le Rotary Club. Les espaces verts de la ville ont mis en relation avec les points forts loisirs également de la cohésion sociale. Et du coup, ce sont des enfants du quartier donc, de Marbais, des Saugerais, Murgerais, qui ont participé à la plantation.
Ce sont des enfants de quel âge ?
Des enfants d'une tranche d'âge de 6 à 15 ans, on va dire.
Et quelle est leur participation plus particulière?
Alors, en amont, ils ont eu donc une sensibilisation à l'environnement qui a été faite par le Rotary, donc justement dans le choix des essences et la construction de cette microforêt. Et ensuite, donc une action sur le terrain, puisqu'ils ont participé à la plantation en elle-même de la microforêt, alors sous forme de 3 groupes d'une dizaine d'enfants, donc ça représente une 30aine d'enfants qui ont participé.
Ce sont des volontaires?
Ce sont des volontaires, bien entendu. Voilà, et l'idée de ce projet donc, est de le suivre sur 3 ans, puisque la microforêt sera autosuffisante à elle-même au bout de 3 ans. Et durant ces 3 années, il y aura des interventions 1 à 2 fois par an de défrichage auxquelles les Rotariens ainsi que les espaces verts de la ville et les enfants participeront.
Donc les agents de la ville sont là aussi peut-être pour donner le coup de pouce, hein, j'imagine.
Oui. Au niveau des agents de la ville, des espaces verts, voilà, c'est un gros déploiement, hein, du coup. Puisque c'est eux qui mènent à bien le projet. Hein. Et donc, effectivement, les enfants aident. Hein. Tout est bien entendu fait par les services de la ville. Donc, microforêt, effectivement, c'est pour l'instant sur une zone qui est assez restreinte. Et donc là, c'est sur une zone de 200 mètres carrés. Ça représente une plantation de 550 arbres tout de même.
Mmh. Alors, et quel bénéfice aura, effectivement, d'avoir cette microforêt dans ce quartier plus particulièrement?
Eh bien, écoutez, c'est le but étant d'apporter, pardon, justement, un réservoir de verdure, bien entendu, donc de développer la biodiversité. Il faut avoir notion aussi sur ce site, ces microforêts peuvent contribuer à un brisement, brise-vue, une protection acoustique. Et là, en l'occurrence, c'est une parcelle de terrain qui se situe en bordure de chemin de fer. Une protection acoustique naturelle. Voilà.
Et j'ai une petite question qui me vient aussi, c'est forcément, dès qu'il y a nature, il y a aussi petites espèces qui peuvent venir habiter, non, cette microforêt.
Oui, tout à fait, justement. Hein, c'est de favoriser justement un réservoir de ressources domestique pour la faune locale, donc on regarde la biodiversité. Mais c'est des choses qui sont envisagées justement dans le suivi de cette microforêt et puis de voir un petit peu les modifications que ça peut apporter dans le futur.
Le Rotary Club et la ville de Mâcon sont à l'initiative d'une plantation d'une microforêt sur le quartier des Gautrias avec le point enfants loisirs Galilée de Mâcon et les enfants des quartiers concernés. Dépêchez-vous, les 10 artistes du collectif Groobyland vous invitent à découvrir les secrets des boîtes noires de leur création à la Maison de la Saône à Belleville. Pour nous en parler, une des plasticiennes de l'exposition Boîte noire, Pascal Bas.
Nous sommes 10 artistes à avoir travaillé sur le thème boîte noire. Une boîte noire, c'est un peu mystérieux, un peu énigmatique. Et là, nous sommes 10, mais 10 propositions très différentes. Et on aurait pu être 50, ça aurait été
la même chose.
C'est la magie de la création.
Très bien. Alors, la boîte noire, effectivement, vous nous disiez, ça va être difficile peut-être d'en discuter, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous-même, d'ailleurs, dans votre travail?
Alors, moi, j'ai réalisé 2 boîtes. Il y a des boîtes qui parlent des enfants migrants qui disparaissent dans les mers Méditerranée ou Manche. Et ils ressemblent tellement à nos enfants que je trouve ça... voilà, il y a quelque chose de perdu d'un humain qui disparaît dans ces eaux. Et j'ai parlé aussi de souvenirs d'enfance. Il y a toute une boîte à tiroirs, où on peut la manipuler, il y a des choses qui sont cachées, qui parlent de mon enfance. Mais il y a plein d'autres propositions qui sont étonnantes. Et c'est un peu l'idée, hein, de boîte noire. Ça peut être la boîte du magicien, comme la boîte noire des avions qu'on retrouve. Il y a beaucoup de choses pour des créateurs. C'est une proposition.
C'est propice à inspiration, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait. Mmh.
C'est une exposition qui pourrait... Elle est spécifique au lieu, celle-ci, où elle pourrait s'exporter?
Non, celle-là, elle a été conçue justement pour passer de lieu en lieu. Et avec la pandémie, ça a été reporté plusieurs fois, les lieux qu'on avait trouvés, parce que souvent, c'est des lieux privés, et les choses évoluent. Les gens font des travaux ou ne sont plus, avec la pandémie, n'ont plus envie de recevoir du monde dans leur maison. Donc, à chaque fois, ça a remis en cause. Donc... pour l'instant, il n'y a qu'à l'atelier Selon Toi qu'on nous a hébergé. Mais peut-être qu'elle peut encore bouger. Et s'il y a des lieux qui seraient ouverts à ce type d'exposition, ça serait volontiers qu'on transporterait nos boîtes.
La Maison de la Saône, lieu d'atelier et d'exposition à Belleville.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.